Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, la radio de l'Université de Lille depuis 1969 sur les ondes de la région des Hauts-de-France, autrefois du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de la journée portes ouvertes de l'Université de Lille, une journée qui aura lieu samedi de février. Et pour nous parler de cette journée, nous avons invité Madame Sylvie Dalmer, qui est vice-présidente chargée de l'orientation et de l'insertion professionnelle de l'Université de Lille. Bonjour Madame Dalmer.
Bonjour René.
Heureux de vous retrouver, j'allais dire presque comme chaque année maintenant, les journées portes ouvertes nous attendent, ou la journée portes ouvertes, peut-être on peut peut-être dire pourquoi autrefois on disait les journées.
Je ne sais pas, c'était une tradition je pense, mais effectivement ça s'est toujours déroulé sur une journée.
Voilà, donc cette journée eh bien, c'est samedi, donc vous êtes prêt à l'université à accueillir, alors accueillir quel type de public ?
Alors sur la journée porte ouverte, sur les différents sites, hein, puisque nous savons des équipes qui vont être mobilisées sur l'ensemble des sites de l'université, nous accueillons tout type de public, mais il est vrai qu'une grosse partie de ce public est un public de lycéens qui sont souvent accompagnés par leurs parents ou leurs amis et qui viennent se renseigner plus avant sur les formations qui les attendent l'année prochaine. Ce sont souvent des jeunes qui ont fait une première approche au salon de l'étudiant et puis qui reviennent sur les différents sites hein, et dont ceux de notre université valider les choix ou les perspectives qui s'offrent à eux pour l'an prochain.
Alors le 2 février, c'est une date qui est calculée en fonction aussi du calendrier, on va dire, des inscriptions à l'université.
Oui, c'est une date qui est surtout organisée au niveau du rectorat pour permettre aux jeunes et à leurs familles de pouvoir aller sur les lycées et les différentes écoles la semaine précédente et puis la semaine suivante avoir le site de l'université ouvert. Toutes les universités des Hauts-de-France sont ouvertes en même temps. Pour permettre justement qu'un jeune puisse se décider peut-être en allant dans les BTS ou les CPGE la semaine précédente, s'informer et puis la semaine suivante voir ce qui est proposé à l'université depuis les formations dans les IUT jusqu'aux formations sélectives ou non dans les licences, les DUST, que sais-je encore.
Voilà, donc cette journée, on peut dire pour certains des élèves qui vont venir, s'inscrit déjà dans une stratégie de parcours.
Oui, évidemment, c'est un parcours qu'ils ont travaillé, particulièrement depuis que Parcoursup existe, hein, qu'ils ont travaillé avec leurs enseignants profs principaux de terminale, puisqu'ils ont deux profs principaux en terminale, et ça fait partie du dispositif hein, d'information, de choix, identifié et réfléchi des jeunes.
Donc l'orientation au niveau des lycées et au niveau des universités, donc chaque entité a son système, on va dire. Comment s'organise l'information aux filières, notamment près des parcours universitaires, dans les lycées?
Alors dans les lycées, on a plusieurs voies pour informer, pour faire la transition lycée-université. D'abord, peut-être sur l'actualité, hein, on a participé à une journée qui s'appelle une journée PAF, un plan académique de formation la semaine dernière, avec 150 profs de terminale ou de première ou encore de seconde, parce que certains s'informent du fait de l'évolution du bac et de ce qui attend les jeunes dans les années à venir. Donc on a eu une grosse journée sur cette transition lycée-université, sur l'information par rapport à Parcoursup et ses évolutions de l'année 2 et puis surtout des dispositifs adaptés dans nos formations sur l'évolution de l'offre de formation. Et puis on est dans une année un peu spéciale puisque nous sommes en train de travailler les prochaines formations puisque 2020-2024 sera une période où nous aurons de nouvelles formations, puisque c'est la prochaine accréditation. Et donc, on informait aussi sur ce qui nous attend dans les années à venir. Mais si on revient à l'année prochaine, nous avons des formations qui sont stabilisées. Là, on est sur la fin de la période de l'accréditation actuelle, hein, 2017, 2015-2019.
Donc le PAF, hein, comme vous le disiez, Sylvie.
Ça c'est une des manières de communiquer. Hein. Il y en a bien d'autres.
Bien sûr, c'est le parcours, on va dire
Non, c'est le plan académique de formation.
Ouais. Est-ce qu'on ressent dans ce plan académique l'idée que le métier évolue pour les enseignants, parce que c'est pour les enseignants pour le coup, hein, ce plan académique de formation, et on va dire recolle à ce que vous proposez après à l'université. Il y a des nouvelles formations pour les enseignants ?
Il y aura de nouvelles formations pour les enseignants, mais là, notre travail était surtout de les soutenir dans leurs nouvelles activités d'orientation, puisqu'ils participent à l'orientation au même titre que les PSY-EN, ce qu'on appelait les COP dans le temps, hein, donc les conseillers d'orientation dans les lycées, et qui aujourd'hui sont sous le vocable PSY-EN. Mais on a vraiment une doublette, là, profs principaux et PSY-EN, qui travaillent ensemble sur l'orientation des jeunes, et nous venons en appui pour participer justement à cette bonne information et aux éléments de changement qui existent dans nos établissements. D'autres formes sont possibles, hein, vous les connaissez bien, mais je les rappelle, c'est tout le dispositif Demain l'Université que nous avons engagé depuis de nombreuses années maintenant. Il y a une dizaine d'années que ça a commencé, et c'est un dispositif de contact direct avec les jeunes des lycées. 21 lycées partenaires de la métropole travaillent avec nous sur ces dispositifs. Ça constitue de tables rondes pour les élèves de première, où on a des étudiants de chez nous qui viennent faire un forum en fait d'information et répondre aux questions de pair à pair. On peut avoir des journées d'immersion, et ça deux fois dans l'année. On a aussi des actions envers les élèves de seconde, et puis envers les parents de tous les élèves par des soirées rencontres avec les parents. Donc des dispositifs qui sont renouvelés chaque année avec un comité de pilotage, bref, des éléments qui permettent d'avoir des dispositifs qui sont adaptés, et puis une plateforme internet qui permet là aussi aux jeunes de faire des tests de positionnement, de voir s'ils sont faits pour telle ou telle formation, et puis les ouvrir à la connaissance des métiers. Donc ça c'est un gros objectif pour nous. Et puis je viens de déposer un projet auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un appel à projet sur l'évolution de la transition lycée-université et tout le travail sur l'orientation. Donc j'espère, hein, je croise les doigts pour qu'on puisse faire encore mieux dans l'avenir sur ces dispositifs, et en particulier ouvrir à d'autres territoires que ces territoires de la métropole, puisque les 21 lycées aujourd'hui sont les lycées de la métropole.
Est-ce que vous avez l'impression au fil du temps que les lycéens commencent, on va dire, à avoir une idée plus claire des études qu'ils veulent entreprendre à l'université ?
Répondre à cette question, c'est difficile parce que c'est une population, si on peut dire, très variée, qui peut être sensibilisée très tôt à la question de l'orientation. On le voit dès le collège, et aujourd'hui par exemple on a des collégiens ici dans le studio qui viennent s'informer de ce qu'est le métier de journaliste ou d'animateur. Donc ça peut commencer très tôt, mais on trouve aussi des jeunes qui, même s'ils ont été accompagnés, sont dans des âges où les idées changent d'un mois à l'autre, les envies, les rencontres qu'ils font les persuadent d'un changement de direction. Bref, ce sont des jeunes dans toute la qualité de la jeunesse, c'est-à-dire très dynamiques et peut-être parfois un peu impulsifs, ou ce qu'on appellerait foisonnants. Donc certains jeunes ne savent pas en terminale vers quelle destinée ils s'orientent. Et pourtant, ils avaient des idées peut-être en troisième, et puis c'est passé, et ça reprend une autre allure. Donc, on est aussi là pour discuter avec eux de leurs valeurs, de leurs envies, de la question, par exemple, du développement durable, du changement climatique, qui peut changer diamétralement leur envie d'orientation. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui vont influer sur les jeunes et sur leur envie de métier pour l'avenir.
Alors, chaque année, nous avons plusieurs, même beaucoup, d'élèves qui viennent de collège et qui viennent ici en stage pour observer ce qui se passe dans une radio. On a le plaisir de les accueillir, ils vont se présenter. Nous avons tout d'abord...
Yanis.
Yanis, hein. Ouais. Tu viens d'où ?
Du collège Myriam Makeba à Lille-Moulin.
Très bien, et puis ?
Cyril.
Oui, toi tu viens de ?
Des Yvelines.
Des Yvelines, ça fait un bout, hein ?
Oui.
Tu profites de quoi, là ? Du beau temps, de la neige, pour venir faire un tour dans nos studios ? Tu as la chance de venir ici comme ça ?
Oui, j'ai eu la chance d'avoir une tante qui a des relations avec Radio Campus.
Oh, alors là, on sent le piston tout de suite. Hein.
Et qui m'a tout de suite dirigée vers cette radio.
Excellent. Alors, toi, enfin, vous êtes venu ici, est-ce que vous avez une idée de votre avenir ? Enfin, est-ce que vous avez une idée de vers quoi vous orienteriez ? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Est-ce que tout ça, ça se projette aussi en termes d'études, voire même de profession ?
J'ai pas forcément d'idée de ce que je veux faire plus tard.
Mmh.
Mais j'aime bien le français.
Très bien. Et toi ?
Moi, plus tard, j'aimerais faire journaliste.
Très bien.
Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers la radio pour pouvoir commencer.
Oui, c'est une très bonne idée, bien sûr. Hein. Donc, nous accueillons également des étudiants qui sont L2 ici et qui chaque matin font la matinale de Radio Campus. Donc, n'hésitez pas à les écouter. Vous aurez une idée de ce qu'ils produisent en arrivant. Et après un parcours de 4 mois, après, ils ont vraiment des compétences en radio. Hein. Pratiquement, ils peuvent faire de la radio au bout de 4 mois, mais leur objectif, c'est d'entrer dans les écoles de journalisme en master ensuite. Et 50% de ces étudiants, au moins, entrent en master à l'issue de la L3. Donc voilà, vous avez un petit peu une idée des étapes, donc après le collège, le lycée. Est-ce que vous avez déjà des gens dans votre collège qui vous orientent ou qui vous donnent de l'information sur les futures on va dire formations, hein ?
Oui, on a les professeurs qui nous aident beaucoup, qui nous donnent beaucoup de documents. On a aussi la conseillère d'orientation.
Alors, dans mon collège, c'est surtout les professeurs principaux qui nous orientent pour le lycée et également la conseillère d'orientation.
Voilà. Donc toi, tu veux faire du français. La langue, c'est important et la radio, c'est une forme intéressante d'utiliser la langue, hein, et de la transmettre aussi. Tu voudrais être professeur de français ?
Non.
Non. Tu veux être écrivain ?
J'aimerais écrire,
ouais.
Peut-être un livre ou des livres, mais peut-être, à voir.
Peut-être, à voir. Donc tout ça, tu vas découvrir, déjà tu as une bonne base, c'est-à-dire une envie.
Oui.
Et après tu vas attendre de découvrir justement les propositions ou bien les opportunités, c'est ça ?
Oui.
D'accord. Donc l'année prochaine, est-ce que vous avez déjà une idée en seconde ? Toutes les classes sont identiques ou il y a des classes différentes selon ce que vous voulez faire ?
Normalement, je crois qu'il y a des nouvelles réformes. Donc, à partir de la première, on va devoir choisir des spécialités. Mmh. 3 spécialités en première et 2 spécialités en terminale.
Et ça se choisit en seconde.
Voilà.
Non, ben voilà. Donc tout ça, ça évolue. Hein. On se rend compte qu'il y a des évolutions et vous tenez au courant, visiblement. C'est bien.
Mais je pense que c'est intéressant de les voir là devant nous parce que ce sont les prochaines générations qui passeront par la réforme du baccalauréat qui est réalisée pour éviter ce tuyau que représente le bac S aujourd'hui, dans lequel on engouffre quand même presque 80% des bacs généraux. Et c'est pas forcément parce que ce sont des scientifiques, mais tout simplement parce que il y a une image de que le bac S ouvre à tout. Alors qu'on sous-entendrait que le bac L ne le fait pas ou que le bac ES ne le fait pas, pour ne prendre que ces bacs généraux. Donc l'idée, c'est que les 3 spécialités qui le choisiront seront des spécialités qui correspondent à leurs envies et aussi à leurs projets. Et par exemple, là, tout récemment, il y a un nouveau site qui a été ouvert qui s'appelle Horizon 2021, qui en fait c'est 2021, qui représente les premiers bacheliers qui vont sortir de cette réforme. Et cet horizon, c'est justement de voir en fonction des sélections de spécialités ce qui s'ouvre à eux. Plus naturellement possible. Ça ne veut pas dire que ça cloisonne, mais c'est plutôt pour donner des perspectives, et je trouve que le nom Horizon est assez intéressant parce que voilà, c'est pas cloisonné. Maintenant, on n'évitera pas hein, des stratégies qui sont celles peut-être de reconstruire des séries, mais tout le travail de l'orientation, ça va justement être d'avoir une orientation individuelle et de se dire non, il n'y a pas des stratégies toutes faites. Si tu aimes les arts du cirque, par exemple, bah, c'est tout à fait intéressant que tu puisses prendre aussi cette spécialité, et ça pourrait être des spécialités maths et arts du cirque, enfin, par exemple. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu utopique, mais c'est aussi des éléments qui pourront être présentés dans les bacs à l'avenir.
Alors, est-ce que vous auriez des questions à poser à Madame Sylvie Delmer, donc qui est vice-présidente chargée de l'orientation insertion professionnelle? Est-ce que quelques idées vous viennent à l'esprit?
Moi qui voudrais faire journaliste plus tard, j'aimerais savoir quelles seraient les spécialités judicieuses à prendre.
Alors, je ne vais pas me substituer à une chargée d'orientation, mais ce qu'on peut peut-être dire comme ça, de façon assez ouverte sur l'université, c'est que nous avons des formations, et on en parlait avec René avant de prendre le micro, on a des formations qui permettent de travailler la question du journalisme, puisqu'on a un accord avec l'École supérieure de journalisme pour faire des formations avec option Académie ESJ. Et ça, c'est proposé dans une multitude de licences, pas forcément que la licence de Sciences Po ou la licence de droit ou d'histoire, qui semble assez naturelle, mais aussi dans une licence de géographie d'aménagement ou dans des licences d'économie ou de sociologie. De STAPS. Ça ouvre ce moyen de pouvoir commencer à travailler le concours de Sciences Po de journalisme, et en même temps d'avoir une bonne assise disciplinaire. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que il faut aussi que vous vous intéressiez à quel type de journalisme vous avez envie de coller. Et par exemple, René disait à l'instant, STAPS option Académie ESJ, c'est intéressant par exemple pour devenir journaliste du sport, mais on a aussi de gros débouchés par exemple sur le journalisme scientifique, parce que faire de la médiation sur les découvertes scientifiques, c'est très très difficile à faire si on n'est pas un peu spécialiste du domaine des sciences. Donc on peut très bien être attiré par les maths, la physique, chimie par exemple, et avoir envie d'être journaliste, et ça peut se faire. Donc ce sont des éléments que nous proposons dans l'université. Mais on peut aussi tout simplement faire d'autres licences. On peut travailler aussi sur une prépa, pour ne pas parler que des formations de l'université, faire une CPGE, et puis derrière avancer vers des formations de l'université en licence 3 ou en master. C'est aussi un parcours tout à fait intéressant pour devenir journaliste.
D'accord, merci bien.
Alors, on va revenir à cette journée du samedi 2 février. Comment elle se structure? Comment elle s'organise?
Alors, nous avons cette année voulu développer une journée porte ouverte sur presque tous les sites de l'université qui soit au plus près des lieux de formation. Donc, nous avons systématiquement un accueil sur les sites de formation de nos étudiants. Et c'est un assez grand changement sur la cité scientifique où nous nous trouvons, puisque jusqu'à présent, nous étions à la Halle Valin, dans une grande halle, pour présenter, disons, un salon bis des formations. Or, cette année, nous allons accueillir nos futurs étudiants sur principalement trois bâtiments qui sont emblématiques des lieux de formation. Donc, le SH3 pour les formations formations qui sont dans le domaine de l'économie-gestion et des sciences sociales et sciences humaines. Sur le P1, pour les formations qui sont en sciences exactes, sciences de l'ingénieur, et toutes les formations qui débouchent à partir de ce parcours. Nous avons donc les sciences de l'ingénieur qui y seront également. Et puis nous avons un troisième bâtiment important, celui du SN1, qui est sciences naturelles, comme son nom l'indique, SN, où nous retrouverons les formations autour de la biologie, des sciences de la vie et de la terre et sciences de la vie. Bien évidemment, nous ne présentons pas que le début de formation, hein, nous présentons l'ensemble des formations de l'université, depuis la première année jusqu'au doctorat, en passant par les masters, les DUST, les formations d'ingénieurs, par exemple le CMI sera aussi présenté.
Et donc sur les autres pôles de l'Université de Lille?
Alors, pour terminer sur Cité Scientifique, on travaillera aussi sur la présentation des services, des associations, des lieux de vie sur le campus. Donc, la maison de l'étudiant sera ouverte, l'espace culture également, et le bâtiment SUP, où on fait quand même beaucoup des activités pédagogiques sur ce site. Et on invite évidemment Transpol, le CROUS, etc. Sur les autres sites, il y a moins de changements. Mais ce qui est la marque générale, c'est que on renvoie assez systématiquement sur chacun des stands de l'information sur les autres perspectives dans les mêmes domaines. Je prends l'exemple des sciences économiques et gestion. On en retrouve sur au moins 3 sites de l'université. Et donc, il y aura une information qui renverra sur les autres sites pour que les familles et les jeunes puissent aller découvrir aussi ce qui se présente dans d'autres sites de l'université dans les mêmes domaines et qui renvoient vers l'IAE, par exemple, ou qui renvoient sur la FFBC. Et donc, il y a 3 sites, Cité Scientifique, Lille Moulin et puis l'IAE dans Lille. Donc, tout ça est assez bien présenté sur le site internet qui s'appelle jpo.univ-lille.fr, dans lequel on retrouve des onglets qui permettent de voir quels sont les sites et campus ouverts, de pouvoir aussi rentrer dans l'information par les thèmes. Par exemple, je suis intéressée, l'était... j'ai oublié ton prénom.
Yanis,
tout à l'heure, je suis intéressée par le français. Je vais donc cliquer sur art, lettres, langue pour voir un peu ce qu'il peut y avoir derrière ces formations et où je peux m'informer sur ces formations. Donc, cette entrée thématique permet aussi à un jeune de ne pas se dire je vais aller sur l'île Moulin ou je vais aller sur Cité Scientifique parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est de voir la nature des formations qui y sont proposées. Mais peut-être que parfois, ils savent déjà où ça se situe parce qu'ils ont eu de la famille qui connaissait ou parce que leur prof principal leur a dit. Et à ce moment-là, l'entrée par site est tout à fait opportune.
Voilà, donc je pense que le mieux, c'est effectivement de préparer sa journée, voir son parcours dans la journée, peut-être même passer d'un point à un autre via le métro, par exemple, qui est très pratique. Et même pour l'anecdote, le parcours entre Cité Scientifique et Pont de Bois, c'est une section, enfin je veux dire, c'est un billet qui est moins cher, c'est tarif réduit. Oui. Mais la durée, enfin le parcours,
nombre de stations.
Oui, le nombre de stations a été calculé justement pour les étudiants qui vont de Lille 1 à l'époque à Lille 3.
Oui, c'est vrai qu'on est à 3 stations.
Mais oui, c'est voilà. Donc voilà, on peut imaginer de faire un petit peu la tournée de ces 3 grands lieux de l'enseignement universitaire de la région.
Je peux peut-être ajouter que l'université, c'est aussi les IUT. Et les 3 IUT sont ouverts sur cette journée porte ouverte. Donc on va retrouver à l'IUTA sur le site Cité Scientifique les formations qui sont liées aux sciences mais aussi à la diététique et qui sont des formations en 2 ans qui se prolongent très souvent avec une licence pro ou qui permettent aussi des passerelles vers les formations de master ensuite. Nous avons le site de Tourcoing, où là aussi les équipes sont attentives à accueillir les étudiants. Et puis le nouveau site de Roubaix, où l'IUT a pris position cette année, puisque le bâtiment s'est ouvert en septembre. Et donc cette IUT offre des formations autour du juridique, mais aussi de la sécurité électronique, informatique. Et on retrouve sur le site de Roubaix deux autres formations, LEA et l'IMMD, autour des formations aux langues, mais aussi au commerce, puisque IMMD, hein, c'est c'est une composante dans laquelle on a des formations sur la traditionnelle vente à distance, puis qui est devenue la vente par Internet et qui se retrouve autour des réseaux aussi. Hein, donc voilà quelques sites un peu moins connus peut-être, et sur lesquels je voudrais ouvrir un tout petit peu la porte.
C'est vrai qu'à Roubaix, la vente à distance, c'était quand même une vraie tradition qui se préserve peut-être au travers de ces réseaux maintenant, Internet. Mmh. Alors, on va rappeler que c'est donc samedi, de quelle heure à quelle heure ?
C'est de 9h à 17h, non-stop.
Voilà, et puis que c'est ouvert à tous, bien sûr, et tous les curieux qui veulent voir un petit peu comment se structure une université, comment elle s'adapte à des jeunes qui viennent. Et est-ce qu'il y aura des étudiants, pourquoi pas de L2, L3, qui vont peut-être donner des conseils?
Oui, sur ces journées portes ouvertes, ce qu'on a également voulu, c'est ouvrir peut-être plus qu'avant les équipes mixtes entre enseignants, chercheurs, mais aussi étudiants, qui informent sur les formations, mais aussi les ambiances qui existent dans ces formations, l'organisation de la vie étudiante, bref, ce qui fait qu'on se sent bien quand on est étudiant à l'Université de Lille. C'est aussi des temps d'échange, des temps de rencontre. Parfois, ça se joue à pas grand-chose, hein, un choix d'orientation, se dire que sur ce site, on se sent plutôt bien. Et puis, on peut bénéficier aussi d'entretiens individuels qui vont conforter les goûts de chacun et peut-être rassurer aussi sur les niveaux de prérequis qui sont ceux des formations et qui sont indiqués sur Parcoursup.
Voilà, bien merci Madame Delmer donc de nous avoir présenté en détail hein, ce qui est aussi on va dire la partie écrite sur support du web avec on rappelle jpo.univ-lille.fr, c'est bien cela?
C'est parfait.
Merci beaucoup, très bonne journée.
Vous
merci aussi aux deux élèves des collèges qui sont venus nous rendre visite.
Au plaisir.